débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Va-t-on manquer d'inflation ? En tout cas, la BCE a signé sa 8e baisse de taux hier. Ça ne veut pas dire qu'il y aura encore beaucoup de baisses de taux. On va évoquer le budget 2026 avec les propos un peu difficiles à décrypter d'Éric Lombard sur France 2. Il n'y aura pas de hausse d'ensemble des impôts. Mais, il y a tellement de mais qu'on voit arriver à gros comme une maison, ces fameux impôts ou en tout cas ces baisses de dépenses fiscales qui reviennent aux mêmes, ce sont des hausses d'impôts qui ne disent pas leur nom. On dirait un mot de l'année blanche, c'est de plus en plus cité comme une piste. D'ailleurs, Éric Lombard a dit qu'il fallait stabiliser la dette publique. Le meilleur moyen pour stabiliser la dette publique, c'est l'année blanche. Après, est-ce que c'est juste la moins des mauvaises solutions ? Ouest France a eu accès aux premières conclusions des hauts conseils qui ont été sollicités par François Bayrou pour réfléchir à ce qu'on peut faire en matière d'économie de dépenses sociales. Ce qui est merveilleux, c'est que la première conclusion, selon ces hauts conseils, est qu'il faudra plus de recettes. Et visiblement, ils sont tentés par quelque chose qui serait TVA ou CSG social. Des pistes qui sont toujours malgré tout dans la tête de l'exécutif, puisqu'elles ont été citées hier par la ministre du Travail, mais également par Éric Lombard, qui pense qu'une partie des dépenses sociales ne doivent pas exclusivement reposer sur le travail, mais sur autre chose. Alors sur quoi ? Et puis on essaiera de dire un mot de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé entre Elon Musk et Donald Trump. En tout cas, l'action Tesla n'a pas aimé, elle a perdu près de 15% et 150 milliards d'euros de capitalisation, ce qui fait que Tesla est tombé sous les fameux 1000 milliards d'euros de capitalisation aux États-Unis. Bonjour Gaëlle Mac.
Bonjour.
Bienvenue, directrice déléguée de la rédaction de Challenge. La une de Challenge, c'est bien, je n'ai même pas vérifié avant, c'est bien celle-là.
Hein. C'est bien celle-là.
Voilà, l'IA, les formations pour accélérer sa carrière. Hier, on faisait une spéciale tech. IA, les formations, ça veut dire que vous faites un dossier pratique.
C'est un dossier pratique et un dossier plutôt enseignement supérieur et formation qu'un dossier IA. Enfin,
ouais,
voilà, c'est formation sur l'IA.
Formation sur l'IA. Bonjour Gilles Raveau.
Bonjour Monsieur Dose.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Et on vous retrouve toutes les semaines dans le quart d'heure écho sur YouTube.
C'est vrai, tout à fait.
Voilà, et vous allez enregistrer le prochain quart d'heure dans un quart d'heure.
Après. Essayez d'enchaîner, ça va être dur.
C'est quoi le sujet ?
Fast fashion.
La fast fashion.
Et l'ultra fast fashion.
D'accord. Et là, vous avez un point de vue très arrêté.
Ben, regarde.
Oh ben, exactement, en tant que spécialiste de la question vestimentaire.
Ben, voilà.
Le polo est à la mode.
Ben, le polo est à la mode, oui. On voit que le polo, il coûte moins de 150 euros. Il est arrivé non taxé.
C'est un polo Oxbow, sans faire de publicité.
Ludovic Subran, bonjour.
Bonjour.
Ça fait beaucoup trop longtemps que vous n'êtes pas... Je dis ça à chaque fois, en plus. Hein.
Ouais.
Beaucoup trop longtemps que vous n'êtes pas venu. Directeur des investissements d'Allianz et chef économiste d'Allianz. Et vous avez publié « L'export fait vivre ces entreprises françaises championnes du monde, édition Le Cherche Midi. Bon, 8e baisse de taux, Ludovic, c'est une bonne nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle. Dieu sait si des voix se sont à de nombreuses reprises élevées pour demander des baisses de taux d'intérêt à la Banque Centrale.
Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour au moins deux raisons. La première, c'est que quand on voit ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas mal d'avoir une Banque Centrale qui n'est pas chahutée dans la conduite de sa politique monétaire et qui a pu faire un atterrissage très en douceur, sans récession, après le pic d'inflation qu'on a connu suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. La deuxième bonne raison, c'est que je trouve que aujourd'hui la teneur des échanges au sein du Conseil monétaire est plutôt excellente, puisque on voit qu'ils sont toujours conduits par la donnée. Là, elle a plus ou moins...
L'important, ce que vous dites, conduite par la donnée, c'est aujourd'hui une forme de doctrine de fonctionnement.
Oui,
à l'époque, il y avait la forward guidance qui donnait la direction future. Et là, on attend presque a posteriori des données pour pouvoir prendre une décision.
Moi, je ne suis pas un fan de ça. J'en ai parlé à nombreuses reprises, parce que je trouve que le tâtonnement monétaire, ça a tendance à accélérer ou à amplifier la volatilité sur les marchés. Mais dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal. Et surtout, ça, pour le coup, pour la BCE, ça marche assez bien, parce que là, ils sont en effet à 2% de taux directeur. Nous, on s'attend à ce qu'ils baissent encore deux fois d'ici la fin de l'année, mais peut-être avec des pauses entre ces baisses de taux. Principalement, pourquoi ? Parce que ça va dépendre de ce qui se passe aux États-Unis, et ça va dépendre aussi de ce qui va se passer sur le côté budgétaire. Parce que vous parliez de la peur de la déflation, moi, je n'y crois pas du tout. L'inflation servicielle en zone euro est toujours assez forte. Et puis, il y a quand même ce gros sujet sur le policy mix. Donc, les Allemands qui vont dépenser presque 10 points de PIB sur les prochains 10 ans à relancer leur économie via la défense des infrastructures. Nous, nous qui n'arrivons pas vraiment à baisser la voilure sur la dépense publique, les Italiens, les Espagnols qui veulent aussi dépenser. Donc, je trouve que la BCE incarne aujourd'hui énormément de stabilité. C'est une encre et ça se voit. Je trouve que les investisseurs regardent vraiment l'Europe différemment. Alors, ce n'est pas le grand retour du capital vers l'Europe, mais moi, tous les jours, je vois des investisseurs américains qui me disent « Explique-moi de nouveau, qu'est-ce qui fait que l'Europe est attractive aujourd'hui ? Est-ce que cette Europe de la défense, ça pourrait accélérer des investissements dans la technologie et des secteurs productifs ?» J'avais pas eu cette discussion depuis un moment. Et je rappelle à tout le monde l'édition qu'on avait en novembre, où c'était The Economist qui titrait « L'Europe est derrière, à la traîne, l'exceptionnalisme américain ». Le monde a bien changé. Cette Europe qui était vieille, woke, bureaucrate, personne n'en voulait, maintenant elle paraît super cool par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique avec Trump et ses copains.
C'était Agnès Benassi-Kiré qui était au printemps du FMI et de la Banque mondiale et qui était rentrée. Parmi les trois conclusions qu'elle avait tirées, c'est que d'abord il y avait une stabilité quand même préservée du système financier et qu'il y avait un retour de l'envie d'Europe.
Ouais, parce qu'on croit au libre-échange, ah ouais, parce qu'on croit à l'indépendance de la Banque centrale. J'avoue, quand vous êtes investisseur, c'est plutôt assez. Alors, c'est pas parfait, l'environnement réglementaire ou fiscal, etc., est pas génial. On est très fragmenté. Il y a tout le rapport Draghi à mettre en œuvre, sur l'approfondissement du marché unique. Mais, j'avoue que le faire valoir américain nous donne un petit peu de vent dans les voiles, quoi.
J'avais rarement entendu sur ce plateau quelqu'un être aussi dans le satisfecit de la politique menée par la Banque Centrale Européenne, sans forcément rendre tous les lauriers à Madame Lagarde, mais Dieu sait si on a entendu des critiques lourdes sur Christine Lagarde et vous avez un discours qui est beaucoup plus mesuré. Gaëlle, oui, et puis oui, Gilles, pour poursuivre.
Mais en fait, moi j'ai jamais été une très grande critique de Christine Lagarde, j'avoue. Je trouve que simplement c'est lisible, en fait, c'est juste logique, en fait. Et ça devient maintenant exceptionnel, la lisibilité. C'est juste ça. En fait, l'Europe, elle n'est pas meilleure qu'avant, elle est juste stable. Et en fait, ce dont ont besoin les investisseurs et les entrepreneurs, c'est la stabilité, c'est vraiment la vertu cardinale, c'est le besoin premier pour faire des affaires, c'est d'avoir un environnement que l'on comprend. Je veux dire, et ce que fait la BCE, ce que fait la Commission européenne plus globalement, voilà, je veux dire, tout simplement, c'est un environnement économique qui, il y a deux ans, je veux dire, toutes les zones, enfin, les grandes zones pouvaient se prévaloir d'avoir ce type d'environnement. Aujourd'hui, ça devient presque rare parce que dans un contexte de guerre commerciale, entre la Chine et les États-Unis, dans un contexte complètement incertain qui met juste l'économie à l'arrêt, juste les investisseurs et les entrepreneurs aux abois en se demandant du jour au lendemain qu'est-ce qui va se passer. Bon, voilà. Donc, finalement, c'était quand même, sur le fond, c'était pas du tout étonnant. La croissance baisse quand même. Je veux dire, la croissance s'affaiblit en Europe.
Bah, l'OCDE nous l'a confirmé.
Voilà, et l'inflation n'est plus un sujet. Je veux dire, l'agenda premier de la BCE, c'est quand même la maîtrise de l'inflation. L'inflation aujourd'hui est clairement bien moins un sujet que la croissance. Et cette baisse de la croissance fait aussi baisser le coût du pétrole, le prix du pétrole. Donc, de toute manière, l'inflation va rester.
C'est peut-être d'ailleurs l'énergie qui est la principale responsable du recul de l'inflation, plus que les effets de politique monétaire.
Bien sûr. Et en plus, cette question des droits de douane ne nous touche. L'inflation ne va pas être forte en Europe à cause des droits de douane. On n'importe pas autant de marchandises des États-Unis que eux. Voilà. Donc, ça va pas énormément gonfler l'inflation en Europe, quel que soit ce qui se passe sur les droits de douane.
Non, mais surtout que ça dépendra de la réponse définitive des Européens, parce que si on décide de ne pas mettre vraiment de rétorsion commerciale sur les produits américains, on n'apportera pas de l'inflation.
J'espère qu'on va en mettre un peu quand même.
Un peu sans doute.
Sinon, on va avoir
Je vous rappelle qu'on a un euro qui a beaucoup. Enfin, le dollar a beaucoup baissé face à l'euro, ce qui atténue considérablement pour le pouvoir d'achat des Européens les effets droits de douane.
Et là, ça a l'air d'avancer un peu, les négociations. Là. Il se passe quelque chose.
Mais on n'est pas à l'abri d'un Trump qui nous dit qu'il va monter à 75%.
Hein. Jamais, à l'abri de rien.
Par rapport à ce qu'on a dit, Gilles, depuis ce début de tour de table, sur déflation, non a priori, c'est c'est pas le risque, mais la bataille contre l'inflation est potentiellement tenue, en tout cas tenue. Et effectivement, c'est très Warren Buffett, je n'investis que dans ce que je comprends. Et il faut bien reconnaître, Gaël, j'admets qu'on comprend à peu près l'Europe, beaucoup voilà. plus qu'on ne peut prévoir ce qui pourrait se passer aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez me ajouter à cette photographie?
Oh là là que oui!
Oh là là,
oh
que,
là,
oui.
là que oui!
Bon.
Parce que je suis en train de terminer un livre sur ce que j'appelle la très grande inflation.
La très grande inflation.
De fin 2021-2023. Et je suis retombé sur ce grand moment d'histoire des idées contemporaines. C'est Christine Lagarde qui est auditionnée au Parlement européen et qui reconnaît que l'inflation a été tirée par les profits. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit « Oui, évidemment, je vois bien que les taux de marge ont augmenté dans certains secteurs. » Et quand elle est questionnée, c'est ce petit moment exceptionnel où l'Union européenne est un tout petit peu démocratique, quand elle est questionnée au Parlement, elle dit « Oui, alors effectivement, nos services, nous, on connaît pas trop bien les profits, vous savez, parce que nous, depuis les années 70, bah, ce qu'on regarde, les banques centrales, c'est les salaires, puis comme le monde sait, c'est la CGT hein, qui gouverne l'économie européenne, comme chacun sait. Et donc, on est bien obsédé sur les salaires, et on regarde au troisième chiffre après la virgule, mais les profits, on regarde pas trop, parce que, hein, hypothèse de concurrence pourrait être parfaite, à l'équilibre, les profits sont nuls, merci, bonsoir. » Et donc, ça, c'est quand même très intéressant, c'est que alors qu'elle sait ça, elle fait exploser, hein. Il suffit, les gens peuvent regarder les courbes, le taux d'intérêt qui est à 2% en mi-2022, il est porté jusqu'à 4,5%
oui, absolument.
En 2023, dans le but, que j'adore, de créer du chômage, de la pauvreté, de la récession et d'alimenter l'extrême droite.
Oh, d'accord,
si,
d'accord, ok.
C'est ce que dit dans son discours de juin 2023 à Sintra au Portugal. Christine Lagarde nous dit, nous allons mettre les taux d'intérêt à des niveaux restrictifs, ça veut dire ce que ça veut dire, et nous les maintiendrons à ce niveau-là aussi longtemps que nécessaire.
Vous me dites que Mme Lagarde va mener une politique restrictive monétaire pour créer du chômage,
oui.
de la pauvreté et l'extrême droite.
Oui. Et faire monter l'extrême droite.
C'est la base de la politique monétaire, c'est ce que le défunt Jean-Paul Fitoussi expliquait très bien le débat interne. Non, mais c'est la base, c'est la réalité des choses.
C'est la réalité
des choses.
C'est
pas parce qu'elle n'est pas dite normalement, et enseignée.
Normalement, vous utilisez l'arme de la politique monétaire comme eau chaude ou eau froide en fonction des réalités économiques. Pas dans des buts de perversion et de destruction.
Lisez le discours de Sintra, Monsieur Doz. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a... Non, mais pourquoi j'en parle? Parce que j'ai une passion pour le taux d'intérêt, parce que c'est la variable qui affecte le plus la vie des gens. C'est ça qui est assez extraordinaire.
C'est le prix de l'argent.
Non, c'est le prix de l'argent.
L'inflation. Oui.
Et donc, qu'est-ce qui se passe en 2023-2024? On a un effondrement du marché immobilier dont on a beaucoup parlé ici dans l'émission qui nous suit, qui est directement la conséquence de cette très forte hausse des taux d'intérêt.
Sur le marché immobilier, la première conséquence immédiate et directe pour les gens des mouvements de taux, ça va être l'IMO.
Et on a, à l'époque, des milliers de témoignages dans la presse de familles, je ne peux plus acheter, tous mes projets s'effondrent, etc. Vous pouvez le contester, ce sont des faits qui sont largement établis. Et qu'est-ce que nous a dit Christine Lagarde hier? Eh oui, elle nous a dit, au niveau actuel, donc ça monte et ça redescend, vraiment c'est parfaitement symétrique, c'est monté très très haut et très très fort, ça a été très fortement critiqué par beaucoup d'économistes à l'époque.
Oui, bien sûr.
Presse capitaliste, les échos s'alarmaient des très fortes hausses de la BCE de l'époque. Je peux vous envoyer tous les articles, mais vous les connaissez comme moi. Et qu'est-ce qu'a dit Christine Lagarde hier? Elle dit, au niveau où nous revenons, ça n'a plus, elle l'a dit, vous pouvez regarder son communiqué hier, de la BCE, ça n'a plus d'effet négatif sur l'activité. Donc c'est bien qu'avant ça avait un effet négatif et c'était bien le but. Et donc,
remontez les taux,
c'est pour baisser la chômage. C'est pour ralentir l'inflation. C'est pour ralentir l'inflation.
Non, mais c'est une vue très dogmatique. On confond corrélation, causalité. Moi, après,
c'est politique. Ludovic.
Non, mais je sais pas quoi dire. C'est pas les taux d'intérêt qui causent la pauvreté, le chômage ou le mal-être ou le Front National. C'est l'inflation. On le sait depuis maintenant, malheureusement.
Mais je suis très sérieux.
Mais même
quand vous augmentez les taux d'intérêt, il s'agit d'augmenter le coût du crédit, de baisser la consommation, de baisser l'investissement.
L'économie soit bulleuse.
Vous savez que vous allez créer du chômage.
Je le dis
de façon rigolote. Oui.
Mais pourquoi on va créer du chômage?
Pour diminuer la pression salariale et diminuer la demande. Mais bien sûr que oui.
Parce que vous diminuez l'activité.
Le chômage, c'est la réalité des choses.
Pas ensemble. Non, mais il est évident que si on monte les taux pour freiner une surchauffe, Oui. Même s'il y a débat pour savoir si l'inflation était vraiment d'origine monétaire.
Exactement.
Et que l'arme des taux était la bonne pour freiner ce mouvement sur les prix, qui n'a jamais été d'ailleurs un mouvement de hausse généralisée des prix avec effet de second tour. Et automatiquement, si on freine, Gilles, on a forcément des conséquences. Quand on fait des prêts garantis par l'État et qu'il faut les rembourser, alors vous allez me dire qu'on a fait des PGE pour être sûr qu'il y ait des faillites 3 ans plus tard.
Non, on a fait de... Non, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est vous qui inventez un truc qui n'existe pas.
Mais j'invente un truc qui n'existe pas, mais je...
Mais enfin...
Mais vous êtes deux à inventer des trucs qui n'existent pas.
Faisons
une coalition déraisonnable, Luc.
Vous n'êtes pas du tout raisonnable.
Je suis totalement raisonnable. Non, mais attendez. Tout ce que j'explique là est parfaitement expliqué dans tous les travaux universitaires que je connais par cœur des années 70, de la théorie monétaire.
Même Isabella Weber, qui est la personne qui sait un petit peu des choses sur cette inflation, la greedflation, même elle irait pas, Gilles, je suis désolé, jusqu'à la causalité que tu as présentée avec, c'est le taux d'intérêt qui est le.
Je pense qu'elle est absolument
établie. C'est un peu l'expert de ça. C'est la première à avoir, sur cette vague-ci d'inflation, parlé de greedflation, donc l'inflation des profits. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mais oui, c'est vrai.
Pour revenir à ce que tu disais, on mélange plein de choses. En 2020, pour sauver l'économie de récession, faillite, chômage, on met tellement d'argent dans le système que forcément, on crée un peu d'inflation en fin de sortie de... On a en fait arrêté l'économie que pendant 3-4 mois. On ne savait pas ce qu'on faisait. Donc en fait, on a fait beaucoup trop. Et se rajoute à ça d'accord. une crise d'énergie jamais vue depuis les années 70 sur le choc russe. Et donc du coup, tu as deux chocs, un d'offre et un de demande. Le choc d'offre est beaucoup plus important que celui de demande. Parce qu'on a fait tous les PGE, etc. C'est vrai que ce sont les entreprises qui étaient cartélisées dans certains secteurs, le shipping, etc., l'agroalimentaire aux États-Unis, etc., qui en ont profité pour se gaver sur les hausses de prix. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Ça, bien
je
sûr,
pense
moi
que l'inflation
aussi,
des profits, ça a été le truc le plus dégueulasse, on va le dire comme ça, des dernières 5 années sur la vie des gens. En revanche, je suis d'accord avec toi sur le fait que monter les taux, ce n'est pas la seule politique monétaire. En revanche, je pense pas que l'intention de la montée des taux soit de créer chômage, mal-être
avec préméditation.
Parce que c'est un peu. En revanche, est-ce qu'on a abandonné En revanche, est-ce qu'on a abandonné une autre façon de faire de la politique monétaire, peut-être plus complète que cette obsession de la si bonne inflation? Ça, je suis d'accord avec toi. Et donc, c'est vrai que quand tu donnes à n'importe qui n'importe quel problème et tu leur donnes un outil, l'outil est surutilisé. Ça, je suis d'accord. Après, moi, je trouve que de ce côté-ci de l'Atlantique, on n'a pas eu de discours justement alarmiste sur le chômage. Moi, je me rappelle Larry Summers depuis les Bahamas. Ça, c'est un vrai truc qui explique que la seule façon de faire baisser l'inflation aux États-Unis, c'est d'avoir 10% de chômage.
Exactement.
Et là, le cynisme.
Larry Summers, si tu veux, ancien président de l'université d'Harvard.
Voilà. Et ce que je dis là, secrétaire est d'État très établi, Trésor, etc. Donc là, de notre côté à nous. Je pense que, si tu veux, tu parlais de l'immobilier. Je pense que pendant des années, les taux bas ont gonflé la bulle immobilière. Et qu'en termes distributifs, redistributifs, je trouve que... alors, il y a des gens, en effet, qui n'ont plus pu avoir accès au crédit. Mais je pense qu'aussi, d'avoir fait baisser les prix de l'immobilier, ça a fait baisser une partie des inégalités qui s'étaient
accrues. Voilà, les taux bas, c'était aussi un gros facteur d'inégalité.
Je comprends ton point. C'est vrai que notre articulation politique budgétaire, politique monétaire est pourrie. Après, sur l'intention ou sur la causalité, j'ai du mal.
Non, mais moi, je n'ai pas m'excuser de savoir ce que je sais.
En 1900...
On ne s'excuse pas en débat.
On a le droit d'avoir un positionnement et de l'argumenter.
On ne s'excuse pas en débat.
J'ai lu... livre de Jean-Paul Fitoussi, Le débat interdit, 1995, je l'ai lu. Quel est le sous-titre ? Monnaie, Europe, pauvreté. Voilà. Et qu'est-ce qu'il explique ? C'est que quand on fait très fortement augmenter les taux d'intérêt au début des années 90 en France pour faire l'euro, qu'on crée la récession de 1993, que le taux d'endettement de la France prend 20 points, passe de 40% à 60% du PIB entre 92 et 99 pour faire l'euro, on crée nécessairement de la pauvreté. Ce livre a été écrit il y a 30 ans. Je ne vais pas m'excuser de savoir ce que je sais.
Je suis d'accord, mais aujourd'hui, le taux de pauvreté en France est quand même un des plus bas au monde.
C'est pas la question. C'est simplement, quand on augmente les taux d'intérêt très fortement comme on le fait, on doit savoir qu'on aggrave la pauvreté et que dans le contexte politique de l'Europe aujourd'hui,
je pense que c'est
une décision très grave.
Dans le livre de Jean-Paul, qui était mon directeur de master de recherche à Sciences Po, paix à son âme, ce qu'il dit, c'est pas exactement ça. Je suis désolé. Ce qu'il dit, c'est que ce sont les efforts de convergence via la dévaluation compétitive des salaires qui crée la pauvreté. Donc c'est pas, je comprends ton bouc émissaire, quel taux d'intérêt. Ce qu'on a mal fait, Et on l'a vu en Italie, en Grèce, notamment dans, lors de la gestion de la crise grecque et de la crise italienne de 2012-2014, mais on l'a vu en effet dans les années 90 lors du moment de grande convergence, c'est que pour arriver à avoir cette stabilité des prix, on a été rogné sur les salaires et sur notre capacité, d'ailleurs notre productivité chute à ce moment-là en France, ça personne ne le dit. Et donc je pense que
exactement.
Il faut pas confondre.
C'est le début de la désindustrialisation.
Exactement. Et donc, je pense qu'il faut pas confondre cet outil qui est triste, hein, parce qu'il est un peu unique, et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont rajouté l'assouplissement quantitatif. C'est pour ça qu'ils rajoutent les outils macroprudentiels, ouais. Et cette idée de la monnaie unique qu'on a construit sans avoir de budget unique. Parce qu'en fait, derrière le point de Jean-Paul, c'était aussi ça. C'était de dire, il fallait dès le début en Europe faire une union monétaire complète, et donc avec un budget. Ce qui est aussi le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que sur les efforts de la dépense, tu peux pas avoir aujourd'hui.
On a un outil monétaire, mais pas d'outil budgétaire commun.
Et donc, ça nous fout à l'amende. Parce que tu peux pas avoir de correspondance entre ce qu'on essaie de faire quand tu essaies de calmer la surchauffe et mettre, par exemple, les amortisseurs sociaux en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
on s'est privé d'un outil. On a un seul outil qui est monétaire et on s'est privé du deuxième outil.
On va marquer une pause. Je veux bien qu'on continue à s'interroger.
Mais c'est hyper important.
Non, mais c'est hyper important.
C'est doctrinal.
Revenons dans les années 90 avec Jean-Paul Fitoussi.
Mais ça me semble assez cohérent que si on freine l'activité, les effets de frein ont des effets négatifs.
Bien sûr,
les effets de bord sur l'emploi, comme pour la mondialisation et tout ça, ont été complètement mis à l'amende.
On marque une pause. On va revenir en France avec l'ambiance budgétaire, on va dire. On essaiera de dire un mot de l'Europe de la défense. Ludovic Subran est à lire dans Les Échos. Aujourd'hui, il nous fait l'Europe de la défense en 5 actes. Alors, comme j'ai pas lu le papier, mais que j'ai l'auteur, je me suis dit que c'était
magnifique.
Allez, à tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Gaëlle Mac, directrice déléguée de la rédaction de Challenge. Intelligence artificielle, les formations pour accélérer sa carrière. C'est la une de Challenge, c'est donc un dossier pratique. Oh, pour ceux qui voulaient aller dans l'IA, Gilles Raveau.
Non. Mais non. Par contre, j'aimerais bien lire le magazine.
Bon, vous lirez le magazine. Gilles Raveau, qu'on va pouvoir entendre à nouveau dans le quart d'heure d'écho.
Mais oui.
Quart d'heure d'écho sur YouTube.
Voilà. Cette petite chaîne alternative de gauche autogérée.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Et Ludovic Subran, directeur des investissements d'Alliance, chef économiste d'Alliance, qui a publié « L'export fait vivre ses entreprises françaises championnes du monde » au Cherche Midi. Bon, toutes les réactions dans la première demi-heure d'émission, Gilles, c'est quand même pour me dire que le coupable, c'est l'inflation. Hein.
Écoutez, moi, je... j'aime aussi beaucoup l'ignorance.
Bon, avançons.
Je comprends que c'est très agréable, l'ignorance. Mm-hmm. Je suis quelqu'un de très informé qui travaille beaucoup. Vous lirez mon livre.
Ah mais...
Voilà.
Puis il sort quand, celui-là?
Il sort au mois d'octobre.
Mois d'octobre.
Je peux vous dire, il y aura un avant et un après.
J'adore.
Parce qu'on voit bien tous bien énervés.
Ça, c'est du teasing.
On va tous prendre cher, alors.
Nous qui ne travaillons pas beaucoup.
Il va mettre toutes les citations de l'émission d'aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
Monsieur Dose est déjà cité. Monsieur Dose est déjà cité.
Bon. Il faut stabiliser la dépense publique, nous dit Éric Lombard hier sur France 2. Stabiliser la dépense publique, à l'année blanche, ça stabilise la dépense publique, par exemple. Mais l'année blanche, ça va fonctionner un peu tout le monde sans le dire. Quand on désindexe ici, ou qu'on désindexe là, que ce soit les pensions, le barème de l'impôt sur le revenu ou les prestations sociales, ça ne s'appelle pas une hausse d'impôt. Enfin, ça a quand même un effet monétaire réel sur les gens qui sont directement concernés. Mmh. Après, l'histoire de la TVA sociale, bon, ça appartient au Parlement, dit Éric Lombard. Mais il n'est pas plutôt favorable à ce qu'il y ait une réflexion sur comment est-ce qu'on transfère une partie de ce qui paye le modèle social vers autre chose. On ne sait pas quelle autre chose. Si je vous dis qu'on va nous faire le coup des impôts qui ne se voient pas, est-ce que vous partagez mon avis ? C'est-à-dire qu'en fait, on va baisser la dépense fiscale, tailler dans des niches, je sais pas, désindexer, faire l'année blanche, baisser des aides, baisser des bonus, baisser des subventions. Ça n'est en aucun cas des hausses d'impôts, mais ça a exactement le même effet. Vous croyez pas, Gaël, que 2026 risque de ressembler à 2025 en dépit des grandes promesses de départ?
Je pense que, en tout cas, de toute façon, déjà, globalement, en France, c'est ce qu'on sait faire, augmenter les impôts. On n'a jamais tellement su baisser les dépenses publiques. Et alors, certainement pas aujourd'hui qu'on n'a pas de majorité et que, le moindre effort intelligent ou de réforme structurelle demanderait quand même du temps qu'on n'a pas, parce que là, comme d'habitude, on est un peu dans l'urgence à courir à l'échalote. Donc ça, c'est signé pour le rabot. Dès que c'est très urgent, on va faire du rabot sur les dépenses et des augmentations d'impôts. Je veux dire, c'est ce qui est le moyen de faire rentrer le plus rapidement de l'argent. Bon. Si on veut faire des réformes intelligentes, c'est forcé que ça prenne du temps et que on n'arrive pas à obtenir les 40 milliards tout de suite. Bon. Et en plus, là, il y a juste aucune majorité. Déjà que c'est difficile pour la classe politique en France d'être courageuse quand tout va bien et quand on a une majorité. Alors là, sans majorité, je veux dire, dès qu'on touche à un curseur quel qu'il soit, on risque la censure, tout le monde crie. Donc voilà, et ça sera le cas, y compris pour l'année blanche, qui est le summum du rabot et du non-choix. En gros, on dit ce qu'on a fait en 2025, on le refait là en 2026, on gèle tout, on enlève l'inflation. Enfin, je veux dire,
on part du principe qu'on a pas de croissance,
alors,
pas d'inflation.
Déjà, il faut voir que ça ne va pas. Je veux dire, l'inflation baisse et en fait, ce genre de schéma marche très bien quand l'inflation est très haute.
Évidemment.
Voilà. Donc tout le monde est en train de dire, regardez, Javier Milei en Argentine, c'est fantastique, 55% d'inflation par an. Hein. Voilà. Donc là, en France, si on va se retrouver à 1,5 ou à 1% d'inflation, ça va pas du tout avoir le même effet. Ensuite, là, quand je parle de rabot et donc de rabot en partie inique, on va geler l'allocation adulte handicapé, voilà. On va geler le RSA. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Donc en fait, je pense que c'est pas ce qui va se passer. Donc on va miter l'assiette, on va commencer à dire oui, on le fait, mais pas pour les retraites, mais pas pour les plus modestes, ce qui est normal, complètement normal. Mais donc au bout du compte, le rendement va en être, on va passer sous les, enfin voilà, donc on va le faire un petit peu. On dit que ça pourrait rapporter jusqu'à 30 milliards si on fait y compris sur les barèmes d'impôts, ce qui est une augmentation d'impôts cachée. Hein. Voilà. Si on fait sur tout, on dit qu'elle devrait être 30 milliards. Bon, moi, je pense que si on fait, peut-être qu'on va faire un peu de cette mesure sur un point ou un autre, et on va tomber à moins de 10 milliards.
Oui,
quoi.
Donc en tout cas, voilà. Les 40. Est-ce qu'il y en a un qui croit aux 40 milliards autour de cette table? Aux 40 milliards, mais vraiment recta, affiché, renseigné.
On ne l'a jamais fait.
Non,
hein.
Non.
On ne l'a jamais fait.
Sûr. Okay. Il y a François Hollande qui l'a fait entre 2012
et 2014.
Mais
oui, c'est ça.
C'était un matraquage fiscal.
Oui. Bon, mais c'est le seul. Il a quand même.
C'est toujours la gauche qui diminue les déficits et c'est toujours la droite qui les augmente.
Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai.
C'est historique. Non, mais d'accord.
Je suis désolé. Ça peut être de gauche ou de droite, mais en fait, c'est vrai.
Oui, il nous sort 20
ans. Un peu Édouard Philippe aussi a été un peu.
Non, c'est faux. Édouard Philippe, il a rien fait, comme d'habitude. Mais
François Hollande, il nous sort 21 milliards d'euros de hausse d'impôts.
La méthode. D'accord. Attends, mais Nicolas, la méthode, c'est le problème de la France.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas baisser les dépenses.
Non,
mais après, qui a rétabli les comptes? C'est à chaque fois la gauche. On peut faire mentir les chiffres. Il se trouve que l'histoire, tu ne peux pas la faire mentir.
Après,
c'est mon anniversaire.
Vas-y. On peut reconnaître que la fin du passage de Thierry Breton à Bercy était plutôt présentable.
Non, c'est bien sûr.
Et c'était pas la gauche.
Mais c'était quand même 20 ans, surtout Jospin et Hollande.
Très content que cette vérité ait été dite. Non, mais c'est vrai partout. Aux États-Unis, c'est un fait. Non, mais pardon, mais encore une fois.
Il y a aussi des contextes macro. Je veux dire, quand Jospin a 4% de croissance pour pouvoir installer les 35 heures,
parce qu'il mène une excellente politique économique et qui fait en sorte que la France.
Oui, non, il y a eu ce moment.
Nicolas, les contextes macro, Sarkozy se prend 2008-2009, Hollande se prend 2012-2014, Macron se prend 2020. Regarde les résultats.
Voilà.
C'est quand même trois crises à 10 points.
Non, mais encore une fois, c'est une rétablie. Non, mais merci. Merci. Monsieur Subrand d'avoir quand même affirmé cette vérité. Non, mais parce qu'à un moment, la connaissance comme ça existe, et ça s'explique très bien. C'est parce que c'est ce qu'on appelle le théorème de Ravoux en sciences économiques, pour lequel je pense avoir un jour le prix Nobel. Je vais vous l'énoncer, c'est extrêmement compliqué, j'ai fait des mois de calcul. Quand vous baissez les impôts, vous baissez les recettes.
Ça dépend sur lesquelles?
Non.
Ça dépend sur
lesquelles. Non, mais ouais, c'est ça le théorème, voilà. Et donc, quand vous baissez les recettes, vous augmentez le déficit.
Non, mais donc, vous avez la conviction que si on augmente les impôts, on augmente les recettes.
Non, j'observe la réalité. La loi TEPA, Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde, Pierre Lerame. Bon. Explosion du déficit. Gilles Carrez, à l'époque, qui nous l'explique dans des rapports de la Cour des comptes.
Là, on est en train de promettre aux gens qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts en 2026.
Non, mais les chiffres,
ça veut dire en aura.
Ce qu'a dit Gaël est très important. Ouais. C'est que font-ils? Que font ces gens? Moi, je me pose la question quand même. Ils avaient un an pour nous préparer un budget. Il y a une forme de résignation. qui est clairement vivante. Donc, soit ils savent déjà qu'il y a des nouvelles élections en septembre, et donc, en fait, ils se disent, on va pas quand même bosser, on va un peu en profiter, on va aller serrer des baluches, faire les G7 et les G20. Soit, je sais pas, moi, je pose la question. C'est-à-dire que...
Là, on nous dit, année blanche ou référendum, quoi. Voilà. En gros, on lâche l'affaire d'entrée. Ouais, on lâche l'affaire. Et donc, soit les Français géreront, référendum sur le budget.
Non.
Ridicule. Impossible. Soit année blanche, allez, voilà,
c'est vraiment non choix par exemple.
Voilà, c'est le non choix. C'est juste le rabot. Et pour autant, je veux dire, ils vont tout autant risquer la censure, hein, parce que quand on va voir dans le détail ce que veut dire l'année blanche, pour l'instant on dit bon, voilà, mais quand on va voir en vrai ce que ça veut dire,
quand Challenge va faire les perdants de l'année blanche,
on va faire l'addition.
Mais déjà, qui a inventé cette expression d'année blanche?
Je sais pas.
Ça vient.
Elle est. Mais Pébro, dans le rapport Pébro 2005. C'était une solution qu'il mettait en avant.
Non, mais évidemment.
Alors, OK, c'est sans doute c'est le non-choix, comme dit Ludovic. Ah, mais ça fonctionne, une année blanche.
Non, mais bien sûr.
Ça marche.
Non, mais par contre.
T'as les fêtes dans les 12 mois, quoi.
Moi, ce qui me gêne dans cette expression, c'est que voilà, ça rend quelque chose, c'est très curieux, parce qu'une année blanche.
Ça a l'air gentil.
Voilà, ça a l'air gentil, on est d'accord.
Oui,
c'est un peu comme s'il se passait rien.
Mais
alors qu'en fait, ça veut dire, effectivement, vous l'avez très bien dit.
Gel généralisé.
Ça veut dire que, le niveau de vie de. Alors, j'ai envie de dire bienvenue dans ma vie, parce que nous, les fonctionnaires, l'année blanche, on connaît bien, hein, parce que on sent bien, je sens bien passer chaque année la non-augmentation de mon salaire qui n'est pas indexé sur l'inflation, n'est-ce pas? Contrairement à ce qui se passe dans le privé.
Les fonctionnaires ont quand même le GVT, malgré tout, dans la grille des rémunérations. Bah, si.
Ah, ne parlons pas de la rémunération des fonctionnaires, avançons dans le débat.
Le GVT existe, le glissement vieillesse, technicité, je ne l'ai pas inventé quand même.
Je ne glisse pas. Mais ça fait 15 ans que je ne glisse pas.
Bon, alors je sais bien que visiblement, moi je suis tellement complexe la fonction publique que tout le monde n'est peut-être pas éligible au GVT.
En tout cas, voilà, l'année blanche ne va pas, c'est pas sans douleur.
Imposer une restriction aux fonctionnaires, ce serait purement dégueulasse. Voilà.
Non, mais pour toujours rester dans les faits, ça a été de façon exceptionnelle, ça ne s'est pas passé en 2023, mais comme on sait tous ici, tous les ans en France, les salaires du privé, en moyenne, augmentent plus que les prix, plus que l'inflation. Tous les ans en France, sur longue période, c'est très établi. Ça n'est clairement pas le cas dans la fonction publique.
Je suis d'accord. C'est tout. Mais là, on est...
Voilà. Si on revient juste sur les chiffres macro, qu'est-ce qui se passe? J'arrondis un tout petit peu. On a à peu près 6% de déficit tous les ans. Pourquoi?
Parce qu'on a, pas encore, mais bon.
On a 51, parce que les recettes publiques, c'est à peu près 51% du PIB, et que les dépenses publiques, j'ai les chiffres sous les yeux, c'est à peu près 57%.
Yes.
Si on fait le bilan d'Emmanuel Macron très calmement, tout a énormément fluctué, notamment les dépenses publiques lors du Covid. En fait, il se trouve que le niveau des dépenses publiques est aujourd'hui à peu près le même qu'en 2017 quand il arrive au pouvoir. Mm-hmm. Donc ça, en fait, en gros...
Rapporté au PIB.
Par contre, les recettes sont inférieures de 2 points. Donc en fait, c'est ça qui a changé. Voilà. Mais je voulais juste transmettre cette information à la population. Voilà.
D'accord, cette information est transmise. Maintenant,
je pense que c'est une information importante.
Maintenant, 2026, Ludovic me dit que globalement, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de direction, pas de stratégie, il n'y a pas de doctrine. Il n'y a qu'à voir le balbutiement d'Éric Lombard sur France 2 qui a des questions simples, c'est pas trop comment se positionner, parce qu'en fait, il n'en sait rien. Et on voit que dans les premières réflexions menées sur la dépense sociale, c'est encore l'idée qu'il va falloir mettre des recettes supplémentaires devant la dépense sociale.
Non, mais
sociale.
Là, on a eu un image. François Bayrou a annoncé l'Himalaya. OK. Himalaya pour régler de 40 milliards. Bon. Il a pas
L'Himalaya, c'est 110 milliards d'ici à 2029.
Il n'a pas fait un mètre. Et il y a eu 10 taxis pour faire des blocages dans Paris et dans les grandes villes pour s'opposer à des restrictions sur le transport sanitaire, etc. Mais je veux dire, immédiatement, on a baissé pavillon et hop, retour à Catépar. Donc, et là, on est sur un petit sujet. Je veux dire, le sujet du transport sanitaire, sur un sujet qui était où il y avait une vraie question qui se posait, puisque les dépenses ont quand même explosé de transport sanitaire, donc on pouvait se poser une vraie question.
Oui, on est proche des 7 milliards.
Et donc là, on se dit, bon.
Non, mais rien que. Enfin.
Voilà, donc moi, là, on se dit,
un petit
on arrive
sujet,
là.
7 milliards. Oui, là. Moi, je me dis, mais où vit-on?
C'est ça.
Que s'est-il passé dans notre vie pour qu'on puisse penser que c'est un petit sujet, tu vois. Moi, je trouve
non,
ça...
Non, mais le petit sujet, c'était l'économie attendue. Ouais, non, bien sûr. C'était une économie à 300 millions. Voilà.
C'est des vrais sujets.
Et 300 millions, on n'y arrive pas. Et on se dit 40 milliards, mais je veux dire, jamais.
Donc, en fait, le résumé de l'histoire, c'est qu'on est incapable de baisser la dépense publique, même en temps normal. Alors,
on
sans
a déjà
Malo...
des taux de prélèvement obligatoire, à mon avis, trop élevés, aujourd'hui, en France. Mais pas... Mais mal réparti.
Non, mais je suis d'accord.
Mal réparti.
Mais parce que, et c'est ce que tu as dit en passant, mais qui à mon avis est fondamental, le financement de la protection sociale. Alors. C'est-à-dire que c'est. Mais Macron le disait déjà en 2016. Oui.
Hein,
il disait il faut passer à un modèle beveridgien. C'était sa formule.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire dans Challenge d'ailleurs. L'idée c'était de dire il faut absolument trouver une autre façon que de taxer le travail pour financer
mais
la
protection sociale. Mais ça, ce sujet de fond sur la TVA sociale, la CSG sociale, enfin en tout cas, de déporter des cotisations vers l'impôt. C'est un vrai sujet de fond qui mérite un. Et sur le fond, je veux dire, on ne peut qu'y être favorable. Je veux dire, l'idée d'avoir une assiette plus large, etc., de ne pas tout faire reposer sur le travail. Mais là, c'est pas. Si le débat en ce moment, c'est un peu comme le problème de la réforme des retraites. Il n'est pas là pour les bonnes raisons. Il est là pour essayer de choper quelques milliards. Donc, en fait, on n'arrive pas à avoir le débat de fond. Voilà, parce que on a aussi un impératif budgétaire dans ce débat, et donc finalement, je veux dire, on se retrouve à parler beaucoup plus du sujet comptable que du sujet véritablement de politique économique.
Le transfert vers l'impôt, le passage du modèle bismarckien où c'est un système assurantiel payé par des cotisations vers un modèle beveridgien où finalement on considère que des missions sont des missions de solidarité nationale qui doivent reposer sur l'impôt.
Ouais.
Dans ces cas-là, c'est TVA, CSG, c'est quoi ?
C'est la TVA.
C'est la TVA, bon.
Bien sûr.
Et moi, je pourrais vous mettre des gens très hostiles à la TVA sociale.
Non, mais moi, je pense que ça marche pas. Ah, si tu veux, eh ben, la TVA, qui paye la TVA, c'est les pauvres.
C'est tout le monde, mais donc, ça pèse plus sur le budget.
Encore une fois, est-ce que tu veux des recettes ou est-ce que tu veux faire de la redistribution ?
Mais voilà.
Là, on a un sujet redistributif, on le transforme en sujet comptable par un morphisme un peu bizarre, et du coup, ça devient un sujet qui est encore plus régressif. Donc, si tu veux la TVA sociale, il faut tout de suite la ranger, ça ne peut pas marcher.
Bon, alors la CSG
tant que tu n'as pas résolu, je suis désolé, la générosité de certaines retraites, le côté très régressif de la distribution de la solidarité nationale, c'est pas le RSA le problème, c'est pas les plus pauvres, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin, qui ont des gros patrimoines et qui n'ont pas besoin d'avoir des retraites qui sont indexées sur l'inflation, parce que Emmanuel Macron bouffe sa réforme des retraites en une indexation de l'inflation.
Oui.
Donc, si tu veux, c'est une erreur.
En 24,
c'est la plus grosse erreur de politique économique ces 10 dernières années.
De l'inflation.
En 24, on avait 5,2 de hausse de revalorisation des pensions. Ça a fait 14,5 milliards d'euros en une année.
Et la réforme, ça a rapporté 17.
Et ça a bouffé la réforme, effectivement.
Donc, c'est ça le sujet.
Rappelle,
donc, maintenant, on est en train de faire des rustines.
Il ronge son frein, Gilles Rabault.
Et je rappelle que, justement, cette année-là, je déteste cette expression de choix politique ou de choix sociaux parce que je pense que personne ne choisit. Mais cette année-là, justement, ça avait été extraordinaire de voir dans la société française qui a eu quoi cette année-là.
Ouais, bien sûr.
Et là, la hiérarchie.
L'année 24.
L'année 2024. Et là, c'était très clair. C'est-à-dire que tout en haut, vous aviez les retraités. Ensuite, vous aviez les salariés du privé. Et très en dessous, vous aviez les salariés du public. Donc là, la hiérarchie.
Et les jeunes.
Et les jeunes, on en parle moins. Je voudrais juste rappeler un autre petit fait qui est quand même important. Lorsque l'État est en déficit...
Oui, ce qui est fréquent.
Oui, ça veut dire...
1964.
Attendez, là, je vous fais un cours de niveau lycée, soyez attentifs, c'est pas
alors,
facile.
Alors, après le théorème Raveau, voici le cours de lycée.
Ouais. La loi Raveau.
Avant le livre...
Il faut une loi.
Bientôt, on va finir à la primaire. Hein.
Non, et puis attends, il y a le livre explosif
en octobre. Je m'adapte à mon public.
Le livre choc en octobre.
Lorsque l'État, n'est-ce pas, est en déficit, ça veut dire qu'il dépense plus que ce qu'il prélève.
Oui, qu'il ne gagne.
Ce qui veut dire que du point de vue du circuit économique, il met de l'argent dans l'économie. Quand vous avez du déficit, en dehors de tout jugement moral, si vous êtes un économiste sérieux, du déficit, ça veut dire que l'État met plus d'argent dans l'économie qu'il n'en prélève. Ce qui veut dire que quand vous réduisez le déficit, vous réduisez le revenu de certaines personnes ou de certaines entreprises.
Forcément.
Voilà. Non, mais je veux dire...
Oui, non, mais
ça, c'est clair.
Non, mais forcément.
Oui, ça et donc, c'est aussi l'indicateur budgétaire.
Et quand vous avez
un compte d'épargne,
c'est comme quand on monte les taux.
Vous avez 20% d'épargne, tu
alors,
te dis que c'est peut-être le moment.
Pas 20%. Si on fait, non mais si on fait.
Mais bien sûr mais c'est quoi le taux d'épargne en France? C'est 18, c'est 16%.
Mais c'est ça le
regarde
problème.
Les taux d'épargne,
c'est ça le problème, c'est qu'on a des retraités effectivement
archipayé qui se gave et ensuite
ah, ils vont aimer, là. Vous allez vous faire plein de copains.
Tchac.
Mais non, mais qui
vous
ensuite
êtes sur Twitter.
Non, mais le circuit macroéconomique, il est extraordinaire. Il y a cette statistique qui a circulé. Tout l'argent public déversé ces dernières années, il se retrouve dans de l'épargne. C'est quoi de l'épargne? C'est des vieux, des archivieux, archi-riches, qui ont des patrimoines de malades, qui possèdent des logements dans lesquels il y a des actifs qui se crèvent pour leur verser des loyers. Et ces actifs, ils vont se prendre la terre qui va cramer et ils n'auront pas de retraite. C'est hallucinant qu'il n'y ait pas de révolution dans ce pays. L'économie politique, le circuit économique français est ultra simple. On est géré par des vieux qui ont le triple du pouvoir électoral des jeunes, qui ont vécu, c'est pas de leur faute, c'est de la faute de personne, c'est de la faute de personne.
Ils ont vécu,
ils ont vécu la génération la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Ils avaient 20 ans en 68, c'est quand même plus sympa d'avoir 20 ans en 68 que 20 ans en 2025. Ils ont, voilà, ils nous envoient des cartes postales des îles Baléares, etc. Et nous, on leur verse les loyers. Vous voyez? Et après, quand vous voulez vous en prendre avec la taxe Zucman au patrimoine, et, ah là là, les petits propriétaires. Mais le petit propriétaire, il est propriétaire, il a sa résidence secondaire, tertiaire et quaternaire, il va bien arrêter de nous faire pleurer. Donc en fait, c'est ça. Non, parce que par contre là, bon, l'avantage, si on est sérieux, mais je sais bien que je sais bien qu'on n'est pas gouverné par des gens sérieux, c'est que là, par contre, il y a des milliers de milliards. Donc quand vous taxez un peu les patrimoines en France, là, d'un point de vue macroéconomique, ça a un effet. Effectivement, plutôt que d'aller gratter les pauvres 10 milliards sur les retraites qu'on a perdu l'année d'après et en arrêtant le pays pendant 3 mois.
Voilà. Ah bah, vous allez lui faire des potes. Non, mais au moins, ça a le mérite d'être clair.
Hein. Oui, ça le mérite. Et puis, c'est archi-établi, alors, pour le coup.
Bon, évidemment, j'ai pas mal de réactions qui sont pas super douces à votre endroit.
De toute façon, je crains que la moyenne d'âge des auditeurs et des auditrices de cette émission ne soit pas tout à fait sous les 30 ans.
Mais bon, en tout cas, moi, c'est même pas une question de jeunes ou vieux.
Vous avez le droit de défendre les retraités. Nicolas Bouzou avait pris la défense des retraités.
Oui, alors moi, je ne prendrais pas la défense forcément des retraités. C'est pas enfin, en fait, je me pose pas véritablement sur cette question générale. Même si c'est vrai qu'il va y avoir une injustice générationnelle. De fait, il y a eu quand même cette parenthèse des 30 glorieuses qui a donné des chances inégales, je dirais, aux générations l'une sur l'autre. Mais c'est surtout l'épargne et le patrimoine. En fait, clairement, je veux dire, le monde entier s'est mis dans une situation d'impossibilité de taxation du patrimoine. Voilà. Et ça, c'est vrai pour les héritages, pour les impôts sur les successions, c'est vrai pour la taxation des stocks de patrimoine. En gros, aujourd'hui, la seule chose qu'on taxe un peu dans le monde, c'est l'immobilier. Voilà, c'est la taxe foncière.
Enlever la franchise fiscale là, sur l'immobilier, vous allez voir.
Voilà.
Ça, c'est un vrai moyen de gagner un peu d'argent et c'est une injustice.
Et pour le reste,
il n'y a pas besoin de cette défiscalisation.
Et pour le reste du patrimoine,
c'est quoi la franchise
fiscale? Tu sais, c'est le fait que quand tu as des propriétés, des appartements que tu loues, tu peux t'endetter pour rénover l'appartement et tu peux défiscaliser tes frais pour mettre au niveau rénover l'appartement. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi défiscaliser ce truc-là dans un pays où on a une crise du logement. Enfin, tu vois,
les patrimoines mobiliers privés ont été largement, ce qui est extraordinaire, ces patrimoines ont été soutenus par l'État par la défiscalisation dans tous les sens. C'est du délire. Si ça suffisait pas.
C'est
complètement
incroyable.
C'est un univers de subventions. Dès qu'on arrête le truc, vous avez toutes les filières de professionnels qui vous disent on est le couteau sous la gorge.
Mais globalement, c'est même une incapacité mondiale autour de ce sujet du patrimoine. Et au-delà de ça,
Parce que le patrimoine se casse. Partie est liquide.
Voilà.
Et donc la peur, c'est sur le travail, il ne se barre pas le travailleur.
Mais c'est ça.
Et donc en fait, on a pendant très longtemps, depuis maintenant 40 ans presque, on a fait bouger le curseur vers ce qui est captif pour la taxation parce qu'on a eu des problèmes d'endettement de l'État.
Mais au-delà de ça.
Et donc on taxe beaucoup le travail parce qu'on a toujours peur que le capital se barre parce qu'il peut passer les frontières. Et donc si tu veux, maintenant, la charge.
On a peur qu'il se barre, mais en fait, quand on regarde les chiffres, il ne se barre pas tant que ça.
Exactement.
Et je veux dire, on n'est jamais parvenu à démontrer qu'il se barrait énormément. Ouais. Et au-delà de ça, je veux dire, en perdant la taxation, on ne perd pas que la taxation, on en perd même la vision. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a plus de statistiques. Ouais. Maintenant qu'il n'y a plus d'impôts sur la fortune, par exemple, on n'arrive plus à savoir précisément, dans plein de pays, on a très peu de statistiques de patrimoine.
Et là, vous allez regretter l'ISF. On parle de taxation, encore une fois. Alors
le problème,
c'est de baisser la dépense publique, et notamment, c'est de maîtriser la dépense sociale. Et là, vous avez vu, en fait, on est sec. On a plein de choses à raconter sur la fiscalité. on est beaucoup plus sec quand il s'agit de se demander si on peut continuer à mettre 7 milliards dans des transports de sanitaires, se demander si on peut continuer à avoir le reste à charge le plus bas du monde, à 250 euros en moyenne par an pour se faire... Enfin, je sais pas, il y a...
On peut parler aussi des revenus des médecins, vous voyez. Enfin,
c'est... Non, mais le problème, Nicolas, c'est les vases communicants. Pourquoi on parle d'impôts? Ce sont les vases, ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est-à-dire l'incidence du bénéfice du dividende public est tellement orientée par notre architecture de protection sociale vers des gens qui n'en ont pas besoin que tu es obligé d'équivalencer ça avec leur taux d'épargne, avec leur patrimoine. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est pourquoi en France, on ne cible pas davantage la dépense publique. Que ça soit, qu'elle soit éducative, de santé, de protection sociale. C'est ça le sujet. Il y a une partie des gens qui ne devraient pas avoir accès, ils devraient contribuer à l'effort de guerre. L'effort de guerre contre la démographie, contre la transition démographique, l'effort de guerre contre le changement climatique. Et c'est là où on a un problème. C'est pour ça qu'on parle toujours d'impôts. Parce qu'en fait, on ne veut pas parler de comment on peut davantage cibler la dépense publique vers ceux qui en ont besoin. Et donc, ça veut dire, en effet, conditionner et mettre vachement de seuils de revenus pour éviter que les gens, et sur les retraites, je suis désolé, les augmentations des retraites, faudrait faire quelque chose qui est beaucoup plus ciblé sur les petites retraites. Les grosses retraites, on ne peut pas les augmenter de 5% en une année. C'est pas possible, ça.
Il n'est pas du tout exclu, parce que ce sont les travailleurs.
Ce que qu'on comprend pas en France, c'est que c'est les travailleurs d'aujourd'hui qui payent pour l'augmentation des super retraites. Pour des gens qui n'en ont pas besoin, ça leur offre rien.
Normalement, enfin, c'est un système de cotisation qui, voilà, c'est toujours ce que répondent les retraités en disant.
Oui, mais c'est pas vrai.
Je cotise.
Mais c'est
pas vrai. Enfin, oui, ben, je sais bien.
Les retraités ont l'impression qu'ils sont en train de rentabiliser sur les cotisations qu'ils ont versées. En fait, personne leur a expliqué dans ces années-là qu'ils payaient pour les gens qui étaient à la retraite.
Exactement.
Et aujourd'hui, il faut deux personnes pour payer ce que touche un retraité, alors qu'avant c'était distribué sur quatre personnes. C'est ça le vrai sujet. Et donc si on expliquait ça aux gens et si ils ont une inculture financière sur le fait que c'est mes cotisations, c'est normal que je les touche comme les chômeurs.
Oui, mais on part si tu veux avec un vrai sujet. Tout le monde a aujourd'hui compris que tous les mois, ce qui lui est prélevé, c'est pas de l'argent qui est mis de côté.
Tu sais quoi? Moi, je suis pour un compte actuariel des gens. Ouais. Je veux montrer à tous les gens.
Entièrement d'accord.
En plus d'un bulletin de salaire, tu leur montres qu'est-ce que tu coûtes, qu'est-ce que tu rapportes. Et tu fais ça, tu vas voir que les gens, ils vont s'en rendre compte. Il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils coûtent beaucoup plus que ce qu'ils pensent rapporter à la société.
Il y a 60% de la nation qui est contributrice nette du système.
Oui. Et donc, et les 40% qui sont déficitaires nettes, qui sont
bénéficiaires nettes.
Net, Mais bon, quand vous faites un sondage, moi, je veux dire, on le fait régulièrement dans Challenge, on demande est-ce que vous avez l'impression de contribuer plus que vous. Ben alors là, vous avez 70% des gens ont l'impression de contribuer plus. Même 60%.
Non, mais c'est pas toujours les mêmes. Moi, l'année où je vais faire mon AVC, si vous voulez, je vais bénéficier à fond du système.
Bien sûr.
Donc ça dépend. Non, c'est pas les mêmes. Vous faites un gros accident de santé, vous bénéficiez.
On a toujours dit que les gros pépins de santé devaient être parfaitement couverts comme.
Moi, je suis très fier de notre système de santé en France. Mais c'est pas ça le sujet. C'est que notre système de santé aujourd'hui, il est de plus en plus. Et là, tu peux parler aux médecins, aux hôpitaux, et c'est le problème de cette démographie, de cette structure de soins de santé aujourd'hui. Il bénéficie beaucoup plus à des gens qui ne paient rien pour leur santé et qui coûtent de plus en plus.
Et c'est
super que ça soit gratuit pour tout le monde, mais le fait que les gens ne savent plus combien ça vaut, on n'a plus de médecine préventive, les généralistes se barrent parce qu'ils veulent pas être payés des clopinettes, on n'a plus assez d'hôpitaux de ville, etc. Soyons très honnêtes.
J'ai plein de réactions, je dois quand même en lire une. Vous êtes dans un délire socialiste absurde, m'écrit Dom, avec votre idée de taxer encore plus le patrimoine. Les retraités, notamment le patrimoine acquis par les retraités, il n'a pas été volé, il est très souvent acquis en travaillant comme des bêtes.
Rien n'est volé.
Voilà.
C'est ça le problème.
Ce qui a été mon cas, dit-il.
L'héritage, c'est volé.
Or, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Non, c'est pas volé.
C'est ce que disent les libéraux.
Christine Lagarde est là pour mettre les gens au chômage et les héritiers sont des voleurs.
Sur une dernière boutade.
Secondes,
je suis très en forme aujourd'hui.
Mais je vois.
On n'a pas parlé quand même de la plus grande réforme budgétaire des dernières années,
qui va
faire des très grandes économies, qui est l'aide active à mourir.
C'est la note de la Fondapol qui est incroyable, où ils ont chiffré ce que représenterait effectivement le fait que des gens soient accompagnés en fin de vie plutôt que prévu.
Ben,
comme c'est la dernière année où vous coûtez le plus
les
cher.
Les coûts sont comme ça.
C'est une non, c'est super cynique.
Ah oui,
c'est super cynique.
Ouais.
Mais
ah, quand on fait le vrai,
on parler d'autre chose. Non. Il reste 3
alors,
minutes.
Alors quand je fais de la politique,
non,
c'est pas bien.
De quelque chose de positif.
Non, il reste
c'est entièrement positif. Ça fait du bien à tout le monde. Ça libère les familles. Bon, on fait une fête d'adieu. On prend la petite pilule rose et ciao, bonsoir.
Waouh, bon, c'était voilà.
Ah oui,
voilà.
Ça suffit.
Merci.
Profitez de la vie tant qu'il y en a.
Merci. Il faut qu'il revienne plus souvent. Je sais pas de qui il parle.
De vous.
Et de Gilles. Forcément.
J'ai hâte de vous lire. Le livre explosif de la rentrée. Le livre constitutif voilà. Après Fitoussi.
Il y aura
Fitoussi,
un avant
Ravo.
Et un après, rappelez-vous.
Il y aura un après Ravo.
30 ans après Fitoussi,
bon,
c'est ça.
Sympa pour les taxes du jour. On se retrouvera demain. Non, lundi à 9h. Merci Gaël Mac avec l'IA à la une de Challenge et les formations. Merci Gilles Ravo, auteur, compositeur, interprète. Voilà. Et Ludovic Subran. On
j'aime
se retrouve
ça.
Lundi à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.